Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. Une émission préparée ce matin par Tiffaine de Rocchini, mais aussi Clément Salazar, Samuel Bernard, Juliette Gadeau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Élise Le. Après notre émission consacrée à la réforme des services de renseignement lundi, la question du traçage, de la collecte, de la monétisation de nos données personnelles, aujourd'hui nous allons parler d'espionnage industriel, d'espionnage économique, piratage industriel, la fuite des infos.
Le sous-marin que nous construisons ou que nous construirons avec la France s'appelle le Barracuda. C'est un sous-marin complètement différent du Scorpène qu'ils construisent pour l'Inde. Nous avons la meilleure des sécurités sur tout ce qui concerne notre défense, que ce soit en association avec d'autres pays ou seulement en Australie.
Aujourd'hui, nous n'avons plus la certitude que les informations importantes au sujet de ces sous-marins sont entre de bonnes mains. Et nous avons besoin de cette assurance aujourd'hui. Je pense que l'autre point à souligner ici, c'est que cela va également provoquer de grandes inquiétudes chez nos alliés et tous ceux qui travaillent avec nous devront être très attentifs à mettre des systèmes de protection en place pour que nos équipements soient sûrs.
J'ai ordonné au chef de la marine d'analyser l'affaire dans son ensemble, y compris le contenu de la fuite, ce que disent de nous les documents, et s'il y a quoi que ce soit, notre sujet, il devra évaluer l'impact que pourraient avoir ces informations sur notre sécurité.
Malcolm Turnbull, le Premier ministre australien, Richard Marles, un conseiller défense du gouvernement de Canberra, et Manohar Parrikar, le ministre indien de la Défense, tous très préoccupés, très attentifs par la récente affaire des CNS. Il y a quelques semaines maintenant, le quotidien The Australian a révélé la diffusion de plus de 22 000 pages de documents techniques très sensibles concernant les sous-marins du français des CNS. Des documents détaillant les systèmes de sonde des sous-marins Scorpen, achetés notamment par l'Inde, leur capacité de combat, de navigation, de communication, et cela quelques mois seulement après que la France a remporté le plus gros contrat de son histoire, la vente de 12 sous-marins à l'Australie pour un montant de 34 milliards d'euros, vente qui n'a pas encore été signée. C'est donc un nouvel épisode de la guerre commerciale sans répit à laquelle se livrent les grandes industries américaines, chinoises, allemandes ou françaises, bien sûr, qui est sortie au grand jour. Il y a un an et demi déjà, la France apprenait que les services de renseignement allemands auraient espionné Airbus également pour le compte de la NSA, les renseignements américains. En mai dernier encore, 6 Chinois étaient inculpés aux États-Unis pour vol de secrets commerciaux. La guerre économique se pratique tout azimut et les conséquences peuvent être considérables. En juin 2012, le directeur de la NSA qualifiait le vol de propriété intellectuelle par cybercriminalité du plus gros transfert de richesses de l'histoire. Alors sommes-nous entrés dans l'âge d'or des espions? Quelles conséquences pour les entreprises? Comment la guerre économique se mène-t-elle? Comment se protéger des attaques? Qui espionne qui? Et pour obtenir quoi? Comment les maîtres de l'espionnage, les Américains, s'y sont pris pour développer un modèle aussi efficace? Et est-ce que la Chine est en train de rattraper son retard? Et comment d'ailleurs la France se situe en matière de cyberdéfense? Voilà un certain nombre de questions qu'on va évoquer ce matin avec deux invités ici avec nous en plateau. D'abord Fabrice de la Barrère, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes associé au sein du cabinet PwC, un spécialiste de cybersécurité et responsable notamment du centre de test de simulation de cyberattaque. À vos côtés, Ali Laidi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, vous êtes chroniqueur à France 24 et vous êtes responsable du journal de l'intelligence économique et auteur de ce livre qui va paraître demain, Histoire mondiale de la guerre économique, qui paraîtra chez Perrin, que je conseille déjà aux auditeurs. Je ne l'ai pas lu intégralement. C'est un gros livre de plus de 500 pages. C'est un très bel ouvrage. Vous avez mis, vous me disiez, 4 ans à le faire. Il faut absolument, quand on s'intéresse à ces questions-là, se procurer ce livre. Ça sera à partir de demain. Alors d'abord, l'actualité. Le constructeur naval français qui a été victime d'une fuite massive d'informations concernant le sous-marin Scorpen, des bâtiments qui sont destinés à l'Inde, au Brésil, au Chili, à la Malaisie également. Alors, il ne s'agit pas de documents confidentiels, mais des documents quand même sensibles, je le disais. Est-ce que cette affaire révèle une certaine vulnérabilité, peut-être inquiétante, des entreprises françaises? Fabrice de la Barrère, on va commencer avec vous.
Merci pour la question déjà embarrassante pour commencer.
C'est pour ça que je vous ai choisi.
Est-ce que les entreprises françaises sont vulnérables? Pas plus, pas moins que les autres. Aujourd'hui, simplement, on on a une complexité des systèmes d'information telle, de par la connexion des systèmes à Internet, et en fait, ce qui a réellement déclenché finalement ce cyberespionnage, c'est l'arrivée d'Internet. Et donc, les entreprises doivent se protéger, doivent mettre en place des mécanismes de protection pour gérer en fait les données qui entrent, les données qui sortent, surveiller les trafics, mettre en place des protections. Et donc, je pense que aujourd'hui, toute entreprise est vulnérable.
Pas plus les entreprises françaises que les autres.
Exactement.
Ali Laïdi, votre avis là-dessus, qui est-ce qui peut être derrière cette fuite? Est-ce que c'est une entreprise concurrente? Est-ce que c'est un État? On sait que la compétition pour décrocher ces contrats s'était jouée notamment avec l'Allemand TKMS et puis aussi un consortium sud-coréen. Est-ce qu'on peut imaginer que ces concurrents-là sont à l'origine de la fuite?
Alors, on peut imaginer beaucoup de choses, en effet. Moi, j'ai une position un peu différente. Je pense que les entreprises françaises et plus généralement européennes sont plus sensibles à ce type d'attaque que des entreprises américaines, chinoises et autres, parce qu'il y a une prise de conscience qui est complètement différente en Amérique, en Europe, en France et dans des autres parties. Donc, c'est pas un hasard si ça tombe sur une entreprise française. On aurait été beaucoup plus surpris si ça était tombé sur une entreprise américaine. Mmh. Mais là, c'est une entreprise française. Ce qui est intéressant, c'est deux choses. D'abord, c'est cette fuite. Elle est vraiment d'ampleur, hein, 22 000 documents. Et d'autre part, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est pourquoi elle a été rendue publique. Parce qu'en fait, c'est une arme de rendre publique une fuite. On aurait pu se contenter d'avoir ces documents, de les exploiter, de gagner des années de recherche en développement sur ces sous-marins-là et ne rien dire.
Et pourquoi est-ce qu'elle a rejailli aussi du côté de l'Australie? C'est peut-être pas non plus
voilà.
Complètement hasard.
C'est pas un hasard, etc. Donc là, on est au cœur de la guerre économique et de l'une des armes particulières de la guerre économique, qui est la guerre de l'information. Qui a intérêt à ce que cette information de la fuite sort à ce moment-là? Puisque c'est un moment très sensible. Le contrat n'a pas été formalisé d'une part. Et d'autre part, c'est un contrat...
Attendez, répondez à la question que vous avez formulée. Qui a intérêt à ces fuites?
Ah bah les concurrents. D'accord. Pour décrédibiliser l'offre française.
Donc par exemple l'Allemand TKMS, le consortium sud-coréen.
On peut imaginer, mais encore une fois, on n'a aucune preuve. Parce que dans ce dossier, il y a quand même quelque chose de très délicat, c'est que certes, la France fournit les sous-marins, mais l'armement des sous-marins vient des États-Unis. Donc si les États-Unis estiment que les Français ne sont pas capables de garder des informations secrètes, etc., ils pourront dire qu'ils ne fourniront pas l'armement aux Australiens. Et dans ces cas-là,
le système d'armement est un système américain, en l'occurrence. Ouais. Sur les conséquences, Fabrice de la Barrère, de cette fuite-là.
Sur les conséquences?
Pour ces entreprises.
C'est toujours en termes d'image, pas toujours agréable. C'est, alors, dire que c'est désastreux, je ne pense pas. Mais c'est vrai, en termes d'image, c'est jamais très bon. Ceci dit, effectivement, ça a été rendu public. En ce qui concerne la vulnérabilité des entreprises, les entreprises anglo-saxonnes sont également vulnérables. Sauf que la gestion de l'incident est parfois mieux gérée, ou en tout cas, ça sort pas dans le même public. Je ne peux malheureusement pas parler d'un certain nombre de clients qui sont aussi anglo-saxons et qui ont des vulnérabilités, en tout cas, j'allais dire structurelles, identiques aux entreprises françaises. Il faut aussi voir que nos entreprises, elles sont mondiales et que les infrastructures, elles sont aux États-Unis, elles sont en France, elles sont en Allemagne, elles sont en Espagne, elles sont en Angleterre. Et donc, l'infrastructure informatique, l'information, elle se balade un peu partout. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez équilibré. Après, effectivement, il y a une dimension plus politique, plus commerciale. Et là, effectivement, la question se pose.
Ali Laïdi, je voudrais qu'on s'interroge sur la question, finalement, de l'avantage concurrentiel que tout ça peut procurer. Finalement, quel est le gain réel pour l'entreprise? Est-ce que c'est aussi décisif que ça dans la guerre économique mondiale? Alors, je vais donner un bout de réponse, parce que vous écrivez page 440 dans votre livre. Le monde post-guerre froide est celui de l'hyper-compétition économique. Les vents féroces de la concurrence soufflent si puissamment qu'ils ravagent en un clin d'œil les positions acquises. C'est-à-dire que dans l'histoire, on a déjà vu des rapports de force entre acteurs économiques totalement bouleversés, justement, par l'espionnage industriel. On a des exemples.
Oui, on a des exemples très concrets dans l'histoire, et ça commence assez tôt, ne serait-ce que dans la découverte de la route du Cap de Bonne-Espérance par les Portugais en 1498, qu'ont fait les Vénitiens qui avaient une partie du marché des épices qui venait de cette région-là, ils ont tout de suite espionné les Portugais pour savoir s'ils étaient vraiment un danger pour leur commerce à eux. Donc, dans l'histoire, on voit ça...
Et dans l'histoire plus récente ?
Et dans l'histoire plus récente...
On pourrait penser à Arcelor, par exemple.
Oui, c'est-à-dire qu'on est là aussi dans du disruptif, c'est-à-dire que du jour au lendemain, vous pouvez perdre la valeur qu'est votre entreprise qui réside essentiellement dans l'information qui permet à votre produit ou à votre service d'être toujours compétitif.
Arcelor, dont s'était emparé le groupe indien Mittal avec, je crois, sans me tromper, une taupe, tout simplement.
Oui, il y a d'autres exemples.
Il y a d'autres exemples. Fabrice Delabarrière.
Oui, alors, ensuite, quand on parle effectivement cyberespionnage, en fait, il y a une combinaison entre les vulnérabilités d'infrastructures dont je parlais tout à l'heure, mais également les hommes. Et il faut savoir, d'après notre enquête, puisque tous les ans, depuis 17 ans, PwC fait une enquête sur finalement les tendances de la cybersécurité, 60% des fuites sont d'origine interne. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a forcément une complicité humaine qui exploite plus ou moins en fait des failles techniques liées, je dirais, au système informatique. Et quand je dis 60% interne, j'inclus également les sous-traitants. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les grands groupes ont des kyriades de sous-traitants. Et finalement, la sécurité de l'ensemble, c'est la sécurité du maillon le plus faible. Et donc, il se peut que vous ayez un fournisseur N-2, N-3, qui a accès finalement au système d'information du maître d'ouvrage, pour que si les systèmes sont mal contrôlés, mal protégés, mal défendus, eh bien, à partir de ce sous-traitant, on puisse remonter et récupérer l'information. Et donc, voilà, ce qui veut dire que l'origine peut être interne, avec des complicités, avec plein de moyens. Donc là,
alors justement, voyons de ce point de vue-là comment en France on est protégé, parce que il y avait eu, on s'en souvient, ce projet de loi croissance et activité. Le gouvernement français avait prévu de mettre en place toute une série de dispositions qui visaient à établir un secret des affaires pour protéger, pour mieux protéger justement les entreprises françaises. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être en quelques mots ce qu'on avait envisagé à l'époque et puis finalement, on a reculé. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu très concrètement pour, au niveau législatif, pour protéger les entreprises françaises contre l'espionnage industriel?
Ouh, là, la question va sortir de mon domaine de compétence en matière contractuelle.
En gros, il y a eu deux tentatives en France de créer une loi sur le secret des affaires. L'idée, pour la schématiser, c'était de dire l'entreprise, il n'y existe pas de protection dans la loi française claire pour protéger les secrets de l'entreprise. Donc, il faut créer une loi là-dessus qui dit, vous, l'entreprise, vous classez vos informations, peu importe, votre fichier client, vos process, etc. Vous les tamponnez secret des affaires et à partir du moment où ces informations sortent, la loi pourra taper sur la personne qui a fait sortir l'information et qui a publié l'information. À deux reprises, il y a eu des tentatives, à deux reprises, elles ont échoué. L'histoire est repassée par Bruxelles et en effet l'année dernière, en avril dernier, Bruxelles a décidé d'une directive européenne sur le secret des affaires qui a été contestée par les ONG, par les journalistes, etc.
Ah oui, on était d'abord en pleine affaire des Panama Papers, donc il fallait avant tout protéger peut-être les lanceurs d'alerte et ça a à nouveau bloqué au niveau de Bruxelles.
Oui, mais elle a été décidée, donc maintenant il va falloir qu'elle soit appliquée à chaque législation nationale des pays qui constituent l'Union européenne. Mais encore une fois, l'idée, c'était de dire, encore une fois, nos amis américains, nos amis chinois, nos amis russes possèdent une législation qui permet de protéger l'information sensible des entreprises. Nous, en Europe, nous n'avons pas cette législation. Cela crée donc une distorsion de concurrence entre les entreprises européennes, américaines et autres.
Nous n'avons pas, vous allez un petit peu vite en besogne, c'est vrai que peut-être l'Union européenne n'est pas parfaitement équipée en la matière. Et par ailleurs, effectivement, il y a une grosse difficulté, c'est qu'il faut d'abord s'accorder pour définir ce qu'on appelle le secret d'affaires. Mais il y a quand même un pays en Europe qui a un dispositif en la matière, c'est la Suède.
Oui, mais c'est pas un hasard. Hein. L'un des pères de l'intelligence économique en Europe a créé une université à Lund, en Suède, et il a irrigué l'ensemble de la pensée stratégique sur l'intelligence économique, non seulement en Europe, mais Un des membres directeurs de la CIA a dit un jour que le père de l'intelligence économique sur toutes les problématiques de guerre économique était cette personne qui s'appelle Degider et qui a donc officié en Suède. Et c'est pas un hasard si la Suède a une véritable culture de la compétition économique lorsqu'elle est de plus en plus difficile. Mais à part ça, il n'y avait pas de législation, alors qu'aux États-Unis, il y a une législation très claire depuis 1996, avec un espionnage act, un espionnage industriel act, etc.
On va y venir.
Croyez-moi, ça frappe.
C'est intéressant ce qu'il dit, Ali Laidi, parce qu'il dit, les Suédois ont cette culture de la compétition économique. Ça veut dire que nous, en France, nous n'avons pas, peut-être, Fabrice Delabarrère, cette culture, justement, de la compétition économique. Les élites économiques pensent que les services de l'État ont les moyens d'assurer leur propre sécurité, ce qui n'est pas forcément le cas.
Je pense que c'est pire que ça. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a été naïfs. Je me souviens de dirigeants, il y a quelques années, disant, on ne peut pas imaginer qu'un concurrent nous espionne. Ce n'était pas possible. Et depuis quelques temps, alors c'est assez récent, mais certains grandes entreprises sont sorties de la naïveté en disant, oui, c'est vrai, il y a de la compétition. Oui, c'est vrai, on nous espionne. Et je peux le dire parce que là pour le coup il l'a dit en public, mais un des clients qui était donc responsable dans un grand ministère français disait c'est un peu gênant quand vous arrivez à Bruxelles pour négocier on va dire la petite agricole commune et vous savez donc vous pouvez négocier et donc en tant que représentant de l'État français on a des marges de manœuvre. Et de vous apercevoir qu'en face,
que le type d'en face connaît parfaitement vos marges de manœuvre, il sait déjà
quelles sont finalement les marges de manœuvre. Donc c'est un peu gênant. Donc on a été pendant très longtemps naïfs, les entreprises comme les administrations. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais la culture, ça prend du temps.
Regardons par exemple un volet en particulier. Vous connaissez très bien ces questions de cyberattaque. On dit que l'une des failles du côté français, c'est le manque de moyens mis sur la table par les acteurs privés. On dit qu'à secteur équivalent, le budget qui est dégagé par une entreprise française pour se protéger du cyberespionnage est bien inférieur à, on va prendre les talons américains, à une entreprise américaine.
Oui, c'est vrai qu'on a été encore là aussi très très en retard sur le sujet en matière de budget. Alors pendant des années, les budgets pour la sécurité informatique étaient réduits au minimum. Il y avait là aussi, un retard important. Alors aujourd'hui, les entreprises essaient de rattraper ce retard, mais malheureusement, les autres pays ont investi depuis des années. Et donc, du jour au lendemain, même si on double ou on triple les budgets, ce qui n'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui, les chiffres que j'ai, c'est que ils sont en augmentation à peu près par rapport à l'année dernière. Notre enquête montre des augmentations à peu près de 29-30% tous les ans, sauf en 2012, lorsqu'il y a eu les conséquences de la crise de 2008 qui ont vraiment affecté l'économie française et européenne, où là, il y a eu en France et en Europe en particulier un arrêt des investissements. Mais là, globalement, oui, on est en retard, même si on essaie de rattraper. Et c'est compliqué.
Alors, on va regarder ce qui se fait du côté de ceux qui sont les maîtres, finalement, de l'espionnage industriel, de la guerre économique. Évidemment, les États-Unis, direction les États-Unis.
Sony's a corporation. It suffered significant damage. There were threats against its employees.
La firme Sony connaît d'importants problèmes. J'exprime toute ma compassion envers les employés qui ont été menacés. Mais je pense qu'ils ont fait une erreur. Ce monde hyper connecté offre des opportunités aux hackers dans les cercles privés et publics. Et désormais, la première règle pour les entreprises est de se protéger et d'empêcher que ce genre d'attaque ait lieu. Une des choses sur lesquelles je souhaite que le Congrès travaille est l'établissement d'une loi solide sur la cybersécurité dans le secteur privé et public. En tout cas, nous sommes en train de créer les meilleurs moyens afin d'empêcher que ces attaques recommencent.
Voilà, vous avez reconnu évidemment Barack Obama. C'était juste après une cyberattaque dont a été victime Sony en 2014. Après avoir pénétré les systèmes informatiques de la société, des pirates ont publié des données volées qui comprenaient notamment des films, des scénarios, dont d'ailleurs le scénario du James Bond qui était en préparation, des dossiers médicaux de salariés, des emails internes évidemment. Alors on a pointé du doigt à l'époque la responsabilité de la Corée du Nord, sans certitude comme un peu à chaque fois. On va s'intéresser aux États-Unis avec vous, Ali Laidi, parce que là-bas. Tout est fait vraiment pour aider les entreprises américaines dans la guerre économique. Tous les services sont sollicités. En fait, les renseignements américains sont devenus le bras armé des entreprises de la guerre économique, alors qu'en France, peut-être qu'on se contente finalement de services de contre-ingérence, pourrait-on dire. Et alors, il faut revenir sur le début, Ali Laïdi, parce que tout s'est joué dans les années 90, où avec la fin de la guerre froide, la dislocation du bloc soviétique, les services de renseignement se sont retrouvés, pas sans travail, mais disons sans avenir, en tout cas, pensait-il. Et donc, il y a des agents de la CIA, de la NSA, qui se sont mis à travailler pour des entreprises privées qui, elles, étaient en demande. Racontez-nous ça, Ali Laïdi, que vous expliquez très bien dans votre histoire mondiale de la guerre économique.
Exactement, c'est vrai qu'à la chute du mur de Berlin, les Américains, le peuple, a demandé les dividendes de cette chute et le fait que un certain nombre d'agents de la CIA, des autres services de renseignement, n'avaient peut-être plus de combats vraiment importants à mener, donc il fallait réduire les budgets. Donc il fallait, pour la CIA et les autres services, trouver d'autres ennemis, trouver d'autres activités pour montrer qu'il était important d'avoir ces budgets-là. Il y a eu toute une réflexion à travers un certain nombre de commissions comme la commission Brand-Rodman, etc., pour savoir en effet si la communauté du renseignement américaine devait s'intéresser à l'économie. Et comment
là, on est au début des années 90.
Voilà, tout à fait. Et là, la réflexion, c'est oui, la communauté du renseignement américain doit s'intéresser à la problématique économique. Non, elle ne doit pas collecter de l'information pour les donner directement à une entreprise américaine. Là est toute le côté malin des Américains, c'était que ces informations collectées par la communauté du renseignement devaient passer d'abord et avant tout par l'administration américaine. Et ensuite, évidemment, une partie de ces informations pouvait se retrouver au sein des entreprises américaines.
Et alors, justement, pour rassurer, pardon, ce trait d'union, les États-Unis vont créer un centre pour faire ce lien entre les services de l'État et les entreprises. C'est l'Advocacy Center, qui a d'ailleurs été créé par Bill Clinton en 1993.
Exact.
Et en gros, cet organisme a pour mission d'aider les entreprises américaines à remporter des marchés à l'étranger, tout simplement.
C'est très clair. Et dans la loi qui crée l'Advocacy Center, le président à l'époque Bill Clinton, note en dernier article, et c'est marrant, cet article n'apparaît pas sur certains documents, mais quand on va chercher la vraie loi, dans le dernier article, il est spécifique que lorsqu'un appel d'offres peut échapper à un Américain, alors l'Advocacy Center se transforme en War Room, et dans ces cas-là, est présent dans l'Advocacy Center l'ensemble des 16 agences de renseignement américains, et ces agences de renseignement peuvent alors mettre à l'intention des entreprises américaines, tous leurs dispositifs de renseignement. Et les Américains ont publié eux-mêmes des tableaux qui montrent très clairement comment, sur un certain nombre de marchés, la NSA a espionné les délégations étrangères et s'est arrangé pour que dans la presse soient publiés des papiers comme quoi ces délégations étrangères étaient en train de corrompre les acheteurs.
Et oui, on va la citer, hein, cette affaire-là. Alors, il y en a peut-être plusieurs, mais notamment celle-là où on voit très bien que les écoutes de la NSA ont permis de faire perdre des marchés, notamment à des entreprises françaises, Thomson, sur un marché brésilien en 94, donc très très vite, hein, juste un an après la création de ce centre. Il y a des ventes d'avions civils à l'Arabie Saoudite qui finalement ne se feront pas, donc on voit que le système national d'intelligence économique américain se montre très vite extrêmement efficace. Fabrice de la Barrière.
Oui, alors j'ai plus en mémoire l'opération à l'époque, mais c'est vrai que les Américains, les Anglo-Saxons en général, sont extrêmement efficaces. Les Anglais, avec leur agence GCHQ, ont montré avec, je dirais, leur capacité de renseignement, leur capacité technique, comment ils pouvaient récupérer l'information. Oui, alors en ce qui concerne...
On n'a pas de service équivalent en France.
Alors en France, on n'a pas de service équivalent, en tout cas... Pas dans les mêmes organisations.
Pas au niveau des écoutes. Pas la capacité d'écoute que les Américains possèdent à travers le fameux réseau Echelon, qui est un réseau qui a été mis en place en 1947 pour espionner l'ensemble
des Anglais,
de l'Union soviétique. Les Anglais également, d'autres, ils sont cinq, ce qu'on appelle les Five Eyes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assumé par les Américains. Ils le disent qu'ils le font. Moi, je vous renvoie à un papier de James Woolsey, qui a été dirigeant de la CIA de 93 à 95, qui a publié un papier dans le Herald Tribune où il dit « Why we espy our allies ?» Pourquoi nous espionnons nos alliés ? Il le dit clairement.
Nous on n'assume pas finalement. Parce que, alors, je ne sais pas du tout si c'est vrai, mais je crois qu'il se dit en tout cas qu'il existe dans les services français, Fabrice Delaberre, des services consacrés justement aux opérations, disons, clandestines en matière économique. On parle d'un service baptisé « Service Y », qui aurait été rebaptisé « Service 7 ». Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, qui notamment s'occuperait de la fouille d'ordinateurs portables de patrons étrangers de passage en France.
Alors, c'est vrai qu'en France, l'État communique sur la défense, c'est-à-dire qu'on a finalement, on affiche la défense, la protection, on n'affiche pas l'attaque. Encore que ça bouge un petit peu, puisque quand on discute avec les gens de l'ANSSI, ils avouent, oui, bien sûr,
on se. C'est quoi l'ANSSI ?
L'ANSSI, c'est l'Agence française de sécurité des systèmes d'information, qui. Est censé protéger en fait et qui en fait assiste les entreprises je dirais nationales, les OIV, les organismes d'importance vitale, les États.
L'équivalent de l'Advocacy Center aux États-Unis.
C'est un appui technique voilà. Sur l'infrastructure informatique.
Là sur l'appui technique, on va retrouver plutôt le BSI en Allemagne qui a le même type de rôle. Le GCHQ en Angleterre, la différence simplement, c'est dans les moyens. Il y a 6000 personnes au GCHQ. Il y en a aujourd'hui un peu moins de 500 en France à l'ANSSI. Les missions ne sont pas tout à fait les mêmes non plus. Il faut être d'accord.
Faut quand même mettre un bémol. Moi, je vous renvoie au livre de Peter Schweitzer qui s'appelle Nouveaux espions, qui a été publié comme par hasard en 1994 aussi aux États-Unis.
Vous voulez dire l'année de l'affaire Thompson ? L'année de l'affaire Thompson ?
Oui, qui dit clairement combien les alliés des États-Unis, Japon, Corée du Sud et la France et l'Allemagne espionnent d'un point de vue industriel les pépites de la Silicon Valley, entre autres. Ils donnent des exemples très, très clairs sur Texas Instruments, etc. Comment les espions de la DGSE sont allés infiltrer des entreprises américaines aux États-Unis pour piquer des technologies, etc. Donc, il faut pas croire que d'un côté, il y aurait les méchants américains et de l'autre côté, les moutons. Non, il y a aussi une réaction. Mais le problème, c'est que c'est une réaction des services de renseignement. Or, aux États-Unis, dans le schéma américain, dans le schéma japonais, etc., on voit bien que c'est l'ensemble du pays qui est positionné pour défendre les entreprises.
On voit que c'est parfaitement assumé. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant du côté des États-Unis, c'est qu'on pense toujours que l'espionnage industriel, commercial, c'est des choses totalement secrètes, un petit peu sous les radars. C'est pas toujours le cas. Il y a aussi, disons, des espions, et là je mets des guillemets, qui sont rendus parfaitement légaux par le cadre juridique. Aux États-Unis, la législation anticorruption vous permet de poursuivre à peu près n'importe quelle entreprise, qui est arrivée d'ailleurs, pour ne pas les citer, BNP Paribas ou alors Total. Dans ce cas-là, en gros, le ministère américain de la Justice impose la présence de ce qu'on appelle un monitor.
Corporate monitor.
Corporate monitor au sein de l'entreprise pendant plusieurs mois, ce qui va permettre de recueillir de l'information qui seront ensuite précisément transmises au département de justice américain. Donc on a là, disons, des observateurs extérieurs, mais qui d'une certaine manière ont le rôle un peu de ce que nous pensons.
Des
espions finalement.
C'est la capacité des Américains de faire en sorte que leurs droits puissent s'appliquer en dehors de leurs frontières. Et c'est ce qui se passe. À partir du moment où la BNP a utilisé le dollar pour faire des affaires avec le Soudan, qui faisait partie d'une liste américaine des Rogue States, ces fameux pays avec qui il faut surtout pas travailler, et se mettait dans le rouge de la loi américaine. Et à partir de ce moment-là, l'administration américaine, pas la justice, c'est ça qui est important, c'est l'administration américaine va voir l'entreprise BNP en l'occurrence en disant « Il me semble que vous ne faites pas le travail, qu'il y a un travail qui ne correspond pas à l'éthique, etc. Prouvez-nous que vous avez triché, et si vous faites un bon travail, vous aurez une amende. »
Sera plus.
Voilà. Sinon, vous serez exclu du marché américain. Ouais, ça, c'est le pire.
Fabrice Delaberre.
Oui, effectivement.
C'est une bonne technique. On a beaucoup critiqué l'extraterritorialité juridique des États-Unis, mais dans ce cas-là, c'est bien pratique pour eux.
C'est bien pratique pour eux, et en plus, ils en usent et abusent. Exactement. c'est vrai qu'à l'échelon d'un État comme la France, c'est plus compliqué de faire appliquer la même chose. Si on était tenté de le faire, seule l'Europe est en mesure aujourd'hui de pouvoir faire ce genre de choses. Il y a quand même une chose qui est un début, finalement, de riposte européenne sur le sujet, c'est la fameuse directive, la GDPR, sur les données personnelles, qui est un caillou énorme dans les sociétés américaines, qui ne savent pas comment gérer, en fait, la gestion de données personnelles finalement des entreprises françaises, lorsqu'une entreprise américaine a des filiales en Europe, elle doit effectivement s'assurer que les informations ne pourront pas traverser l'Atlantique. Et ça, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, avec le cloud, avec l'externalisation donc des systèmes d'information, ça devient compliqué.
Alors, dans cette affaire, les informations vont continuer à aller aux États-Unis. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est leur utilisation à l'insu de ceux qui donnent ces informations sans le savoir. Donc, en effet, ça a été renégocié parce que ça a été attaqué au niveau de la Cour européenne de justice, qui a condamné, en effet, l'Union européenne pour ne pas garantir la protection des données personnelles. Ça a été renégocié. Et dans la renégociation, il y a toujours le flux d'informations qui part aux États-Unis. Il faut pas penser le contraire.
La seule chose, c'est que le Safe Harbor a été effectivement, le Safe Harbor, c'était l'accord qu'il y avait entre l'Europe et les États-Unis sur la transmission des données personnelles aux États-Unis, que le nouveau texte de la communauté européenne a été retoqué par les pays membres. Et donc aujourd'hui, on est toujours dans une espèce de no man's land. Et pour pouvoir faire des audits de sécurité d'entreprises américaines qui gèrent des données personnelles, à chaque fois, on leur dit, là, en fait, vous ne pouvez pas rapatrier ces données parce que vous n'êtes pas conforme à la réglementation. Et en fait, aujourd'hui, typiquement, les mandats que nous, on a d'entreprises européennes, c'est de dire, il n'est pas question que les données personnelles de citoyens européens soient stockées aux États-Unis.
Toute la question, c'est la réciprocité. Je veux dire, c'est vrai que les États-Unis utilisent leurs droits pour pouvoir faire leurs affaires, aider leurs entreprises, etc., en dehors des frontières américaines. Toute la question, c'est la réciprocité de l'Europe. Et il y a une réponse, là, dernièrement, c'est plutôt l'affaire Apple. Quand tout à coup, on a demandé à Apple de rembourser 13 milliards d'euros à l'Irlande et à d'autres pays.
Attention, quand vous dites « on a demandé », c'est la Commission européenne. Non, mais parce que Dublin ne demande pas du tout. Mais qu'on soit bien d'accord.
Même la France n'est pas sûre de récupérer.
Elle est plutôt sûre de l'inverse.
La Commission, et là, les Américains se sont arc-boutés en disant « non, c'est du protectionnisme, vous attaquez uniquement les entreprises américaines sur ce secteur ». Ce qui est faux, puisque Starbucks, certes, est attaqué, mais également Fiat, etc., surtout les problématiques de taxes rolling, etc. Donc là, il y a une réaction européenne.
Ouais, gros patriotisme américain, alors que quelques mois plus tôt, on se souvient quand même avec l'affaire de Bernardino, que les autorités américaines avaient précisément demandé à Apple de les aider à débloquer ce téléphone portable d'un des auteurs de la tuerie, et qu'Apple avait dit non. Et alors là, tout le monde était tombé sur Apple en disant « Oh là là, vilain Apple !» Et puis là, tout le monde défend Apple, tiens. Tiens, encore une dernière chose à Lila Heidi, puis ensuite on va accueillir un nouvel invité. Encore un instant sur les États-Unis, parce que Hillary Clinton a beaucoup œuvré justement pour développer l'intelligence économique, comme on appelle ça aux États-Unis. Pour elle, le pays doit utiliser ce concept qu'on appelle le smart power pour projeter la puissance américaine à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'elle a fait justement en termes d'intelligence économique et finalement quelle est sa vision de la projection américaine à travers justement ce travail-là ?
Alors donc vous l'avez dit au début, ça arrive au tournant des années 90 avec la chute du mur de Berlin. C'est Bill Clinton qui est au pouvoir et c'est vrai qu'il y a une continuité aux États-Unis entre républicains et démocrates sur ce dossier-là de la protection des intérêts américains dans le monde. Donc c'est vrai que parmi les grands guerriers américains, hélas, ce sont essentiellement les démocrates qui ont mis en place aux États-Unis des infrastructures qui nécessitent en effet l'apport des services de renseignement pour aider les entreprises américaines. Donc Hillary Clinton, c'est la femme de Bill Clinton. Donc elle a vécu toutes ces années-là. Et quand elle s'est retrouvée secrétaire d'État, elle a beaucoup travaillé avec la grande industrie du pétrole afin que un certain nombre d'exploitations reviennent à des Américains en Irak et autres. Elle a beaucoup travaillé avec l'ensemble des grandes multinationales américaines pour pouvoir projeter encore plus la puissance américaine en dehors. Et puis elle a travaillé avec Barack Obama qui a aussi institué un nouvel organisme aux États-Unis lorsqu'il est président des États-Unis, c'est l'ITEC, c'est l'Interagency Trade Enforcement, qui consiste en quoi ? Qui consiste tout simplement à créer une structure dans laquelle il va y avoir des responsables économiques, mais aussi le numéro 3 est un membre des services de renseignement. Et Barack Obama leur demande tout simplement, monitorez le monde et dites-moi dans quel pays on ne respecte pas la concurrence libre et parfaite. Et dans ces cas-là, j'utiliserai ces informations pour aller taper sur ces pays ou sur ces entreprises. Donc on voit bien qu'il y a une continuité aux États-Unis entre républicains et démocrates sur cette question.
Le piratage industriel, la fuite des infos dans cette semaine consacrée à l'espionnage. On est avec Ali Laïdi et Fabrice Delabarrère.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On va s'intéresser à l'Allemagne. L'année dernière, un eurodéputé écologiste autrichien avait révélé une affaire d'écoute de lignes téléphoniques françaises par le biais des services de renseignement allemands, le BND, mais pour le compte de l'agence des renseignements américains, la NSA. Alors, c'est pas exactement qui sont les propriétaires de lignes, ni pourquoi elles ont été écoutées. On a même eu des révélations selon lesquelles l'Élysée aurait été espionnée, ainsi que des ministres de la République, absolument intolérables venant de nos alliés allemands.
Nous demandons, et je l'ai fait encore, que toutes les informations nous soient communiquées. Parce qu'on ne peut pas comprendre puisse y avoir ce type de pratique entre alliés. Je l'avais dit lorsqu'il s'agissait des États-Unis, je le dis encore lorsqu'il s'agit d'un pays ami comme l'Allemagne, et je sais que la chancelière fera tout pour nous dire exactement les circonstances qui ont été celles pour écouter un ministre de la République française.
Le gouvernement allemand fera tout son possible pour garantir que les agences de renseignement peuvent mener leur travail à bien. Face aux menaces terroristes internationales, le BND travaille avec les autres agences de renseignement et cela comprend d'abord et avant tout la NSA.
Voilà, des révélations qui avaient un petit peu embarrassé la chancelière allemande, alors que jusqu'ici, c'est vrai que Berlin se plaçait plutôt en victime des écoutes américaines, des alliés qui s'écoutent, c'est quand même étonnant. On va retrouver un nouvel invité par téléphone qui est en ce moment à Stuttgart, c'est Bernd Oliver Bühler, bonjour.
Merci beaucoup.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur en intelligence financière dans une école parisienne. On se souvient que la révélation d'Edward Snowden avait montré que la NSA avait mis en place un système d'écoute et que, évidemment, ça concernait aussi l'Europe, le téléphone de la chancelière allemande, mais aussi, bien sûr, ici en France. Donc, en réalité, ces pratiques étaient connues. Mais finalement, comment comprendre ces écoutes allemandes de lignes françaises?
Wow, c'est une bonne question. Parce qu'il ne faut pas partir du constat que les alliés ne s'écoutent pas. Les services de renseignement dans tous les pays sont d'abord et avant tout toujours là pour défendre les intérêts nationaux. Ça veut dire forcément, on regarde aussi chez les autres qui pratiquent quoi. Sachant que ces pratiques sont vraiment pas nouvelles. Je vous rappelle qu'il y a déjà eu une commission d'enquête à l'époque au Parlement européen sur le système échelon, ce qu'on semble complètement avoir oublié à l'heure actuelle. Alors que les services se font pas toujours confiance, c'est un challenge avec lequel nous sommes obligés de travailler.
Mais alors pourquoi les services allemands ont fait confiance aux États-Unis? Pourquoi l'Allemagne finalement a accepté d'aider les États-Unis dans cette affaire d'écoute? Et depuis quand est-ce qu'elle le fait? Quel est l'intérêt de Berlin?
Ça, c'est vraiment une bonne question. Il y avait un journaliste allemand, le fondateur du Focus, qui avait fait tirer le constat récemment que les députés allemands avaient à ses yeux presque honte de défendre les intérêts des Allemands. Je crois qu'il y a aussi, c'est par rapport à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, qui a eu aussi des répercussions sur la situation actuelle. Je vous rappelle que le BND, comme le Verfassungsschutz, ont été créés à la fois avec le soutien, principalement de l'Angleterre, mais encore deux fois plus, des États-Unis. Ça laisse forcément des traces dans l'histoire, parce que les premières années, ce qui allait devenir le BND était une organisation complètement financé par les États-Unis.
Alors, il y a cette alliance, on le voit, entre Washington et Berlin, mais vous, ce que vous dites, c'est que il serait dans l'intérêt, finalement, et de la France et de l'Allemagne, de construire un axe Paris-Berlin pour faire front dans la guerre économique mondiale. C'est votre position, Bernd Oliver Bühler?
C'est une position qui se reflète aussi dans les succès économiques. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on a d'abord les services de renseignement qui sont motivés pour défendre les intérêts nationaux. Mais quand il s'agit des champions comme anciennement UADS, maintenant le groupe Airbus, ce sont des succès transnationaux qu'aucune de nos deux nations n'aurait pu créer tout seul. Et c'est pour ça aussi la question se pose, qui va défendre ça? C'est pareil comme le groupe Sanofi-Aventis, c'est un groupe qui est actif à la fois en France et en Allemagne. Et c'est pour ça, juste jouer la carte française ou juste jouer la carte allemande, ça trouve toujours sa limitation face au territoire.
Fabrice de la Barrière, je vous entends votre position là-dessus. Ce que nous dit Bernd-Oliver Bühler, c'est qu'il est dans l'intérêt de Paris et de Berlin de s'associer parce qu'ils ont des intérêts communs, tout simplement. Alors comment améliorer justement cette collaboration entre Paris et Berlin sur le plan de l'espionnage économique? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place?
Sur le plan de l'espionnage, je ne saurais pas répondre, mais sur le plan en tout cas des infrastructures techniques, sur le plan des moyens, oui, il y a déjà des collaborations entre les services allemands, les services français. Ce que je pourrais dire également, c'est que je le vois dans les grands groupes, alors je ne citerai pas de nom, mais des grands groupes européens qui s'appuient effectivement sur des champions, comme disait notre invité, où seule la France, l'Allemagne n'aurait pas pu le faire seule, mais en se regroupant, on peut le faire. Eh bien, parfois, nos réglementations nationales sont presque un frein, en fait, à une coopération totale et complète. Typiquement, je fais parfois des missions dans toute l'Europe et je ne peux pas faire, par exemple, d'audit avec des équipes françaises en Allemagne, en Angleterre ou en Espagne parce que les gens, en fait, n'ont pas les habilitations pour pouvoir rentrer, effectivement, dans des sites et aider. Or, la problématique, c'est que les systèmes d'information, ils sont interconnectés, c'est-à-dire que les réseaux, ils sont mondiaux. Et donc, finalement, les cyberespions, ils se jouent tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, il n'y a pas de problème. Moi, je ne me pose pas de question de savoir si je dois m'arrêter à la frontière ou pas. Ils rentrent, ils passent. Donc je pense que ça devrait passer par non seulement des coopérations techniques, mais également revoir certaines réglementations nationales sur justement les prérogatives nationales, parce que finalement, dans certains cas, elles peuvent être contre-productives.
Ouais, il faut d'abord aller vers une harmonisation, disons, des normes, des réglementations, pour pouvoir envisager cette coopération. Ali Laidi.
Alors, c'est vrai que l'axe Paris-Berlin est un axe très important, mais insuffisant, largement insuffisant, je veux dire, dans cette mondialisation. Si on n'a pas le poids minimum de l'Europe, ce sera très, très difficile. Mais en tout cas, ça peut être l'aiguillon. Toute la réflexion avait commencé dans les années 2000, où les Français avaient essayé d'introduire à la Commission, au Parlement européen, dont à Bruxelles, la notion d'intelligence économique pour réfléchir ensemble à la question, tout comme il y a eu, à partir de 2004, les attentats terroristes, un monsieur antiterroriste en Europe. Il y a un certain nombre de Français et d'Allemands qui poussaient pour que l'Europe aussi s'organise pour qu'il y ait un monsieur ou une grande madame qui protège les intérêts économiques des Européens. Mais les Anglo-Saxons, les pays du Nord, ont évacué ça très rapidement parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de ça. C'est très profond parce que autant on peut accepter que l'OTAN assure la sécurité physique de l'Union européenne, de l'Europe, autant qui assure la sécurité économique de l'Europe. C'est une question qui doit être prise par les Européens et par personne d'autre.
Je voudrais qu'on retrouve Bernd-Oliver Bühler par téléphone, toujours depuis Stuttgart. Comment est-ce que vous voyez les choses de votre côté? Finalement, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à créer cet axe Paris-Berlin? On a vu, les intérêts sont là. Notre invité ici en plateau, Fabrice de la Barrère, disait il y a d'abord un travail sur les normes, les réglementations à effectuer. Est-ce que c'est ça qui constitue le principal frein? Ou est-ce que vous voyez d'autres choses? Est-ce qu'il y a une certaine, disons, naïveté, pour reprendre aussi un petit peu le propos d'Ali Laidi, dans tout ça? Et d'où viendrait cette naïveté? Est-ce que c'est plutôt du côté de la France ou du côté de l'Allemagne? Je voudrais votre point de vue là-dessus, Bernd-Oliver Bühler.
Alors, cette naïveté, elle nous encercle tous et j'en fais certainement partie. Déjà, pour commencer avec Angela Merkel, je vous rappelle qu'il n'y a pas seulement les services allemands qui ont donné un coup de pouce aux services américains, ce qui est normal dans la coopération, mais aussi, il paraît, une écoute des services américains du téléphone portable d'Angela Merkel. Ça montre déjà le degré de confiance qui existe sur le réseau transatlantique.
Oui, parce qu'en fait, juste, je fais une toute petite... Allez-y.
On va dire avec réserve, ça c'est le premier point. Le deuxième point que j'aimerais ajouter à Ali Laidi, c'est vrai que la situation est loin d'être parfaite à l'époque, mais je reprends toujours mon exemple EADS. Airbus, quand le groupe a été créé, quand la volonté a démarré de travailler ensemble dans les années 70, les Américains contrôlaient 95% du marché mondial de l'aérospatial civil. Ça veut dire même quand on est petit, on peut réussir, il faut juste donner les moyens et protéger le savoir-faire que nous avons, parce que c'est ça notre grand avantage à l'heure actuelle en Europe. C'est ça qui fait venir les gens chez nous. Et ça demande aussi une politique d'État stratège qui crée un environnement sûr pour les entreprises où ils peuvent se développer, mais aussi une politique qui engendre des stratégies transnationales.
Ce qu'on n'a pas pour le moment au niveau là, européen.
Mais c'est pareil, vous savez, du côté allemand, c'est la classe politique. Oui, l'économie, c'est pas notre tasse de thé.
Merci beaucoup, en tout cas, Bernd-Oliver Bühler, d'avoir accepté d'intervenir ce matin depuis Stuttgart. Je rappelle que vous êtes professeur en intelligence financière dans une école parisienne, une école d'économie, une business school parisienne. Merci infiniment. Il y a un pays dont on n'a pas encore parlé, et il faut absolument en parler, c'est la Chine.
L'espionnage économique chinois a atteint un niveau intolérable et je pense que les États-Unis ainsi que nos alliés en Europe et en Asie ont l'obligation de confronter Pékin et de demander l'arrêt de ces piratages. Demandez à n'importe quel analyste du secteur privé. Il vous dira qu'il y a peu de doutes pour que cette campagne massive soit conduite par le régime chinois.
C'est vrai que c'est absolument intolérable d'arriver comme ça au niveau des États-Unis. On entendait Mike Rogers, président d'un comité des renseignements, affirmant que l'espionnage informatique de la Chine a atteint un niveau intolérable, je reprends ces termes. Alors les États-Unis présentent très régulièrement la Chine comme le nouveau pays absolument incontrôlable, dangereux dans la guerre économique, considérant qu'elle ne respecte absolument pas les règles du commerce international. De son côté, l'Europe, on met aussi régulièrement en accusation Pékin dans des affaires de cyberespionnage. Est-ce que, Ali Laïdi, les Chinois sont en train de rattraper l'étalon américain en matière d'espionnage industriel, en matière de guerre économique?
Une chose est sûre, c'est que les Chinois sont hyper agressifs sur cette question-là. Et leur modèle, c'est pas le modèle américain. Leur modèle, c'est tout simplement le modèle japonais, qui est le premier modèle à avoir émergé, puisque les Japonais ont mis en place un système national d'intelligence économique aussi puissant que discret, Dixit, un rapport confidentiel américain, à partir de 1945, qui aboutit à la fin des années 80 à ce que le Japon, souvenez-vous de l'époque, ce qui était vraiment la référence, taille des croupières aux Américains et remet en cause le leadership américain économique mondial. Donc les choses ont changé depuis puisque les Américains ont réagi à partir de ces années-là. Mais donc c'est le modèle qu'a choisi la Chine, c'est-à-dire un modèle où l'ensemble de l'information circule entre les entreprises et l'administration. Et c'est un modèle qui est encore plus fort en Chine, puisque vous le savez, en Chine, c'est le Parti communiste uniquement qui a la main sur la circulation
d'informations. Tout est déjà un peu imbriqué. Donc.
Voilà. Donc c'est un modèle extrêmement agressif qui met en place toutes les unités de l'armée populaire chinoise, qui met en place toutes les associations qui sont des faux bras créés par l'armée populaire chinoise. Et on voit très souvent sur les sites du FBI des alertes contre telle association de scientifiques chinois qui ne servent que de cheval de Troie pour pénétrer et piquer les technologies de l'Ouest, etc. Donc c'est super agressif, à tel point que une entreprise comme Huawei, qui est une entreprise qui d'abord fabriquait des infrastructures de réseau pour des téléphones et qui maintenant fabrique carrément des smartphones, etc., a fait l'objet de plusieurs rapports en Angleterre, en Inde et aux États-Unis pour interdire la technologie de Huawei dans ces pays-là, parce qu'elle était montrée du doigt comme étant évidemment un cheval de Troie pour l'espionnage.
Fabrice Delaberre, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ces nouveaux acteurs? Parce qu'il y a quelques années, c'est vrai, on parlait beaucoup de ces stagiaires chinois qui récoltaient des informations un peu retransmises au gouvernement central. On pointait du doigt le rôle de la diaspora, des jeunes étudiants. Désormais, on est quelque chose dont visiblement bien mieux organisé. Il y a des cellules de hackers chinois qui travaillent directement pour le pouvoir central. Comment est-ce qu'on fait, Fabrice Delaberre, qu'on est comme vous, en charge de conseiller des entreprises? Comment est-ce qu'on fait pour répondre à un acteur aussi agressif, comme le disait Ali Laïdi, pour protéger les entreprises?
Alors, pour protéger les entreprises, il y a, comme toujours, plusieurs axes. Il y a un axe technologique, classique, avoir des infrastructures qui soient avec le minimum de vulnérabilité. Deux, une organisation qui permette de protéger les entreprises, et puis ensuite des comportements individuels et managériaux. Quand on parlait des stagiaires chinois, c'était pas anecdotique, c'était vraiment une véritable industrie, une organisation. C'est-à-dire que quand vous aviez stagiaires chinois qui arrivaient dans les entreprises françaises. La première chose qu'ils faisaient quand ils avaient reçu leur code d'accès pour ce système d'information, c'est d'aller scanner tout le réseau pour voir ce qu'ils pouvaient récupérer. Mais ça, les Japonais l'avaient fait avant. C'est vrai que c'est le modèle japonais, c'est-à-dire on est là, on récupère et on voit ce qu'il y a après. Et en plus, c'est culturel. Je donne des cours dans une business school sur les problématiques de sécurité et de management des systèmes d'information. Quand j'en fais travailler les étudiants chinois, ils ont le réflexe de finalement l'accumulation et la copie. C'est-à-dire quelque chose qui est, ils vont aller chercher sur Internet, ils font des dépôts pourris, etc. Véritablement, c'est culturel.
Mais est-ce que ça veut dire très concrètement que lorsque vous conseillez des entreprises, vous pointez du doigt la spécificité du cyberespionnage chinois, la spécificité de la menace chinoise ?
Alors, on ne pointe pas spécifiquement la spécificité chinoise. Ce qu'on dit simplement, c'est ne soyez pas naïfs. Et lorsque vous avez des coopérations avec des partenaires, faites attention. Et ne donner à en connaître que aux personnes qui sont effectivement sûres et limiter les accès. C'est-à-dire que si on travaille sur un projet en commun avec des Chinois, ça va être difficile effectivement de ne pas leur donner accès. Mais à ce moment-là, on va dire « Ok, on travaille dans tel environnement informatique avec un environnement projet et surtout, on ne donne pas les clés finalement… »
On ne donne pas les clés du bureau, c'est ce que vous voulez dire.
Exactement, tout simplement. Ouais. Et c'est à la fois de la technologie, mais c'est aussi du comportement humain.
Allez, Heidi.
Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention, pas dire que tous les stagiaires chinois sont des espions. Non. C'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a eu l'affaire Valeo de cette, à qui on a reproché en effet d'avoir trop téléchargé des documents, mais on n'a pas fait de lien direct entre elle et les services chinois. Donc, faudrait pas pointer du doigt tous les étudiants chinois. C'est vrai que la Chine a du retard. Son retard technologique, elle a décidé de le rattraper exactement comme les Japonais en 45, en pillant les technologies de l'Ouest. Le problème de la Chine, c'est exactement le problème aussi du Japon. C'est qu'une fois que vous avez rattrapé votre retard, si vous n'avez pas la recherche et développement public qui vous fait passer au-dessus, ça ne marchera pas. Ils se retrouveront coincés comme les Japonais.
Sauf qu'en la matière, ils investissent aussi beaucoup.
Sauf qu'ils le font, etc. Et qu'on a eu tort de croire dans les années 90 que ce serait uniquement les ateliers qui fabriqueront les t-shirts, etc. Non. Vous regardez sur l'ensemble des secteurs économiques, ils sont présents partout. Et c'est là, en effet, qu'ils peuvent être des concurrents menaçants pour les États-Unis, mais également pour l'Europe. Mais après tout, il n'y a aucune raison qu'ils aient décidé tout à coup de rester uniquement sur les t-shirts et les pantalons. Ils ont tout à fait raison d'aller sur les autres secteurs économiques.
Je suis d'accord, tout à fait.
On arrive malheureusement, Fabrice Delabarrère, à la fin, au terme de cette émission. Mais j'ai compris, il faudra vous réinviter. On refera une émission sur ce sujet. J'ai compris. Merci beaucoup.
Je voulais juste dire, effectivement, je voulais pas dire que tous les stagiaires chinois sont des pirates.
Non, bien sûr, on l'a dit. Merci beaucoup, en tout cas, à vous, Fabrice Delabarrère. Ali Laïdi, un grand merci. Votre livre qui va paraître demain, qui est vraiment très intéressant. Histoire mondiale de la guerre économique chez Perrin. Je ne l'ai pas tout à fait fini, il fait plus de 500 pages. Mais il faut se procurer cet ouvrage. Merci beaucoup. Il est 11h, passé de 53 minutes l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors cette semaine, on est dans les universités. Les universitaires sont aussi des chercheurs. Ils produisent un savoir, génèrent des informations qui peuvent éventuellement intéresser les services. Comment faire la part de l'enquête savante et désintéressée et de l'espionnage pur et simple? On parle d'espionnage, nous.
Liza Anderson, qui a été la présidente de l'American University du Caire et qui est aujourd'hui la doyenne de celle de Columbia, confie les faits suivants. Elle a fait son cours l'année dernière sur le thème suivant. Comment rendre des comptes et adopter des politiques en contexte non démocratique? Eh bien, une bonne partie des étudiants qui s'y sont inscrits venaient de pays exotiques tels que le Pakistan, la Turquie, l'Inde, le Kazakhstan ou la Chine. Et le tiers d'entre eux, sont venus lui confier qu'ils avaient été convoqués par les services de leurs pays respectifs. On voulait savoir pourquoi ils s'y étaient inscrits, ce qui s'y était dit, comment avaient réagi tel ou tel étudiant. Plusieurs avaient reçu des avertissements, voire des menaces précises. Les États non démocratiques se servent, on le disait, de leurs étudiants à l'étranger pour recueillir parfois des informations sensibles. Et parfois aussi, c'est le prix à payer pour simplement être autorisé à sortir. Mais ces mêmes États peuvent se révéler extrêmement sourcilleux lorsqu'il s'agit d'informations les concernant eux-mêmes. Jugez-en. Un historien qui travaillait sur l'histoire de l'Égypte au XIXe siècle, Khaled Farmi, s'est vu refuser le droit de photocopier une carte des routes datant de 150 ans, au motif qu'elle aurait pu avoir des conséquences pour la sécurité nationale. Les universitaires ressortissants d'États démocratiques ne sont pas toujours les bienvenus lorsqu'ils prétendent travailler dans des pays qui ne le sont pas eux-mêmes. L'accusation d'espionnage ou celle de nuire aux intérêts du pays peuvent leur valoir l'expulsion. Ou pire, le corps d'un doctorant italien qui consacrait sa thèse au syndicat en Égypte, Giulio Regeni, a été retrouvé sans vie et affreusement torturé dans une rue du Caire en janvier de cette année. Après tout, a déclaré un officiel égyptien cité dans le New York Times, qui peut bien venir enquêter chez nous sur les syndicats? Oui, oui, c'est louche, hein. Mais heureusement, les assassinats de chercheurs sont rares. La plupart du temps, on se contente, on vous le dira, de vous opposer des impossibilités administratives. Et comment savoir si une autorisation de consulter qui ne vient pas est causée par l'incompétence bureaucratique ou par une censure de nature politique? C'est sous le prétexte d'être des agents de l'étranger que le Kremlin a interdit ces dernières années quantité de laboratoires de recherche et d'ONG. Il suffit de s'intéresser d'un peu trop près aux questions environnementales, aux droits de l'homme, voire aux victimes du sida, pour se voir fermer par mesure administrative. Dernier en date à être menacé d'une telle politique, le centre Levada, fondé en 1987 par un célèbre sociologue russe, Yuri Levada, le premier à avoir mené, dès l'ère Gorbatchev, des enquêtes d'opinion publique dans l'ex-URSS. Le crime du centre Levada est peut-être d'avoir observé une chute des intentions de vote en faveur du parti du président, Russie Unie, qui serait passé de 39 à 31%.
Alors hier, Brice, vous nous avez parlé de la multiplication des atteintes aux libertés sur les campus d'Amérique du Nord. Globalement, est-ce qu'on peut se faire une idée de la situation des libertés universitaires aux États-Unis?
Oui, il y a un indice révélateur. C'est la jurisprudence des tribunaux américains, à commencer par celle de son instance suprême, la Cour suprême. Le Journal of College and University Law a publié ce printemps une étude des litiges ayant opposé des enseignants à l'établissement qui les employait à propos de la liberté d'expression. Cette étude, elle porte sur une période de 50 ans, de 1964 à 2014. En tout, 214 cas ont été trouvés et analysés. Dans 73 cas, c'est l'établissement qui a gagné le procès. Les professeurs l'ont donc emporté dans la grande majorité des cas. Vous me direz, oui, oui, mais si vous raisonnez en termes de tendance, écrit le responsable de cette étude, Michael Leroy, vous voyez que les droits d'expression des membres du corps enseignant se réduisent. En 1984, un pas a été accompli dans la mauvaise direction lorsque la Cour suprême, à l'occasion d'une affaire Waters versus Churchill, a considéré que l'administration d'une école était en droit de limiter la liberté d'expression d'un élève ou d'un enseignant lorsqu'elle la considère comme perturbatrice. Disruptive. Mes recherches montrent que les tribunaux traitent l'éducation supérieure plus comme des organismes gouvernementaux que comme des laboratoires de pensée, conclut le professeur Leroy. Enfin, pour conclure, un cas d'école tout frais, rapporté par la revue The Atlantic, il concerne l'université de Syracuse qui organisera au printemps prochain une série de débats et de conférences sur le thème « La place de la religion au cinéma ». L'un des organisateurs avait envoyé une invitation à un réalisateur israélien connu, Shimon Dotan, lui demandant de venir présenter le documentaire primé qu'il a récemment consacré aux colons motivés par la religion juive pour venir s'installer en Cisjordanie, The Settlers, les colons. Quelques semaines plus tard, une autre professeure écrivait à Shimon Dotan une lettre navrée, lui expliquant qu'elle n'avait pas pu voir son film mais qu'elle était au regret de devoir décommander sa projection par crainte de réactions hostiles de la part des étudiants appelant au boycott d'Israël, BDS. Ainsi constate The Atlantic, une minorité active peut chercher et obtenir un effet d'intimidation, chilling effect, qui aboutit de facto à une censure. Le film de Shimon Dotan, The Settlers, Les Colons, a été retiré d'un programme universitaire où il aurait eu toute sa place.
Des droits d'expression qui se réduisent dans le monde universitaire, voilà une chose préoccupante. Merci beaucoup Brice Couturier, on vous retrouve bien sûr demain comme chaque jour à 11h53 dans Culture Monde sur France Culture. Pour l'heure, c'est Olivia Gisbert qui va prendre le relais, on la retrouve dans un instant sur France Culture pour sa grande table. Très belle journée et à demain.